France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Barcelone, capitale de la Catalogne, 1,6 million habitants, 3 millions dans son agglomération. C'est aujourd'hui la plus grande ville d'Europe confrontée à la sécheresse. 3 ans de sécheresse, les fontaines sont fermées, les douches, les vestiaires aussi, les pelouses des grands hôtels sont peintes en vert et malgré les 2 usines de dessalement de la région qui permettent aux habitants de boire l'eau de mer. S'il ne pleut pas d'ici le début de l'été, l'eau sera acheminée en bateau cargo depuis la région de Valence avec des allers-retours quotidiens. Voilà le tableau, situation qui nous intéresse d'autant plus qu'elle trouve un écho dans de nombreuses régions françaises et notamment dans le département des Pyrénées-Orientales. On en a parlé il y a quelques minutes. Je vous présente nos deux invités. Eva Doya, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée, la représentante du gouvernement catalan en France, la Catalogne, le gouvernement catalan qui a la compétence sur la gestion de l'eau. Nous sommes en ligne également avec Jérôme Latron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en hydrologie à Barcelone, à l'Institut d'évaluation environnementale et de recherche sur l'eau. Des questions pour vous de la part des auditeurs, ça se passe au 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter. Jérôme Latron, je l'ai dit, c'est plus de 3 ans de sécheresse que vit Barcelone et sa région. C'est une situation inédite ?
Oui, c'est une situation inédite. Alors, la première chose, c'est quand même que nous sommes en climat méditerranéen. Mmh. Évidemment, la sécheresse est quelque chose de récurrent en climat méditerranéen. Simplement, la sécheresse que nous vivons ces dernières années est exceptionnelle, disons, à plusieurs niveaux. D'une part, par sa durée, ça fait presque 3 ans que les pluies sont nettement inférieures au normal. On a à peu près 30% de pluie en moins durant les 3 précédentes années. Mmh. C'est une sécheresse qui affecte aussi toute la Catalogne, donc c'est quelque chose de très étendu. Et ensuite, c'est une sécheresse qui a une intensité qu'on n'avait jusqu'à présent jamais vue, aussi bien en raison du déficit de pluie, mais surtout parce que ce déficit de pluie est combiné à une élévation très forte des températures sur les 2 dernières années, avec une anomalie positive de température de près de 2,5 degrés.
Oui, donc chaleur et le manque d'eau combinés, ce qui vous a conduit, Eva Doya, en tout cas le gouvernement de Catalogne, il y a un peu plus d'un mois, le 2 février, à activer la phase urgence sécheresse dans 202 municipalités. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ?
Donc effectivement, on se trouve dans une situation qui est exceptionnelle, comme le disait tout à l'heure, par son intensité, la durée, uh-huh. l'étendue dans le territoire. Ça fait déjà depuis mi-2021 qu'on travaille pour anticiper cette situation et donc pour gérer tant l'urgence de faire que tout le monde puisse accéder à l'eau, tant l'industrie comme les citoyens et tous les secteurs, comme pour l'anticipation. Donc en fait, on se trouve dans essayer de travailler dans les deux volets en même temps.
Mais il y a eu une alerte particulière début février, niveau de barrage par exemple, qui vous ont conduit à franchir ce palier supplémentaire et à arriver à l'urgence sécheresse.
Mais effectivement, on anticipe à chaque fois, c'est pas on se retrouve pas avec les données tout d'un coup, on fait des anticipations, uh-huh. on a nos groupes d'experts qui travaillent conjointement avec le gouvernement, avec cette agence catalane de l'eau, et donc là on anticipe à chaque fois plus ou moins quels sont les scénarios et on fait fur et à mesure, on fait passer les étapes dans lesquelles on va ajuster à chaque fois le niveau d'eau auquel les citoyens peuvent accéder.
Est-ce qu'il y a des communes dans lesquelles il n'y a plus du tout d'eau en ce moment ?
Non. Non, il n'y a pas de communes qui n'ont pas d'eau. Mais les communes sont accompagnées par le gouvernement, justement, pour améliorer.
Pas d'eau courante, je veux dire. Hein.
De l'eau courante, exactement. Il y a des situations ponctuelles qui peuvent arriver, mais qui sont accompagnées tout à fait par le gouvernement, par cette agence catalane de l'eau.
Donc, par moment, dans certaines communes, il n'y a pas d'eau courante, mais il y a de l'eau qui est acheminée, c'est ça que je comprends ?
Presque 100%, uh-huh. on a toujours de l'eau courante. Uh-huh. On n'est pas dans une phase de panique, hein. Uh-huh. Je tiens à le préciser. Uh-huh. On est dans une situation d'urgence qu'il faut gérer, mais tout le monde a accès à l'eau.
Jérôme Latron, d'où vient l'eau que boivent les Barcelonais, normalement, je veux dire, les années précédentes, et aujourd'hui, d'où vient cette eau ? Quelle a été l'évolution dans l'approvisionnement ?
Alors, disons, dans une année normale, l'approvisionnement en eau de Barcelone se fait essentiellement à travers deux grands fleuves, le Llobregat et le Ter, en fait. Et simplement, on potabilise cette eau et on alimente Barcelone à l'aide de ces deux fleuves sur lesquels il y a différents barrages. Maintenant, depuis ces 3 années de sécheresse, en fait, les réserves dans les barrages sont autour de 15-20%. Donc, peu à peu, on a substitué cette alimentation d'eau de fleuve qu'on potabilise par différentes sources d'alimentation qui sont aussi bien les usines de dessalement. On a actuellement 2 usines de dessalement qui tournent en Catalogne, et une troisième, la construction d'une troisième est d'ailleurs prévue dans le futur. Et également, on utilise beaucoup, de plus en plus, ce qu'on appelle l'eau régénérée, qui est en fait utilisation des eaux usées qu'on retraite à nouveau et qu'on réinjecte dans le système.
Ça, c'est... Donc, oui, allez-y, je vous écoute. Allez-y.
Non, je vous en prie. Donc, dans une année normale, disons que plus de 80-90% de l'eau vient des fleuves, mais là, la partie, disons, qui vient des barrages, a baissé, est à moins de 40% actuellement.
Eva Doya, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système d'eau recyclée qui n'est pas le même qu'en France ? Ça n'existe pas en France, ça existe en Espagne.
Exactement.
Et en Catalogne.
Exactement. Alors, en fait, nous, ce qu'on avait, disons, beaucoup avancé dans la désalinisation, comme un peu partout dans des territoires dans lesquels il y avait des périodes comme ça, des sécheresses, et parallèlement, par des questions, justement, parce que ces désalinisations sont très coûteuses, et puis il y a un côté environnemental aussi qui est tout à fait, qui n'est pas négligeable. Donc, on travaille aussi pour la réutilisation de l'eau, pour la potabilisation de l'eau. Donc, il faut essayer de nettoyer cette eau pour la remettre dans le système pour des usages industriels, agricoles, etc. Parce qu'on n'a pas besoin d'eau que dans le robinet. On en a besoin pour l'usine, pour nos forêts, pour tout le monde, effectivement. Donc, il faut trouver des systèmes dans lesquels on va avoir l'eau plus ou moins propre. Et donc là, on va décider l'usage qui peut être pour nettoyer les rues, par exemple. On n'en fait pas maintenant, mais qui éventuellement pourrait être utilisé pour tous les domaines dont on a besoin.
Jérôme Latron, sans usine de dessalement aujourd'hui, il n'y aurait pas assez d'eau à Barcelone, c'est bien cela. Et est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement de la part de ces usines de dessalement ? On a des questions des auditeurs de France Inter sur ce point.
Alors, c'est vrai que ce serait compliqué maintenant, sans ces usines de dessalement, d'alimenter Barcelone en eau. Maintenant, sur l'environnement, le principal problème des usines de dessalement, c'est, comme Eva Doya l'a dit, c'est très coûteux en énergie, et donc ça nous permet d'avoir de l'eau, mais de l'eau à un prix environnemental et à un prix économique assez cher. Mais à part ça, l'impact n'est pas, je dirais, énorme, hormis l'utilisation d'énergie, effectivement.
Mais ça veut dire, à moyen terme, Eva Doya, là, il y a 2 usines de dessalement, une troisième en construction, ça veut dire que le prix de l'eau va augmenter d'année en année dans les prochaines années, en fait. C'est ça ce vers quoi on se dirige ?
Non, on se dirige sur un scénario dans lequel il faut prévoir que l'eau, déjà, ne tombe pas du ciel seulement. Mmh. Donc, il faut essayer de diversifier l'accès qu'on a à l'eau. Donc, il faut accompagner les collectivités locales pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans l'utilisation d'eau. Il faut que les tuyaux ne perdent pas de l'eau dans le circuit. Il faut qu'on arrive à avoir des piscines qui ne sont pas remplies avec de l'eau potable, mais qui sont de l'eau régénérée, de l'eau de mer qui est nettoyer, il faut avancer.
C'est quoi, vous nous rappelez ce qu'est l'eau régénérée ?
Alors, l'eau régénérée, c'est de l'eau qu'on va, disons, enlever de la partie grise, disons, et de la nettoyer. Donc, difficile d'expliquer, mais c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est sortir du circuit, la nettoyer et la remettre dans le circuit. Voilà, donc en fonction un petit peu le système qu'on utilise pour nettoyer, le système et le degré de propreté, disons, on va l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut surtout, c'est penser qu'il faut se situer dans un scénario à la fois de l'urgence, donc mobiliser de l'argent public, c'est ce qu'on a fait pour accompagner les collectivités, les entreprises, le secteur agricole surtout, et d'un autre côté, anticiper ce qu'on va retrouver dans les prochains mois et prochaines années. Donc, nous, on a mobilisé 2400 millions d'euros, par exemple, pour ces usines, mais aussi pour travailler avec les acteurs du pays, du territoire, pour nous situer dans les prochaines années. La situation d'urgence climatique ne va pas s'améliorer.
Jérôme Latron, vous êtes hydrologue. La Catalogne, c'est une grande région de tourisme et d'agriculture. Eva Doya l'a dit. Est-ce que ce modèle-là, qui est gourmand en eau, va pouvoir perdurer ?
Alors, ça, c'est toute la question, en fait, parce que je pense que Bon, alors, ça, seul le futur le dira, mais je pense que la situation dans les prochaines années, même si cette sécheresse se termine à court, à moyen terme, on ne sait pas, mais c'est une situation qui est amenée à se répéter et à s'aggraver dans le futur. Donc, c'est vrai qu'on a également une population qui augmente, un secteur touristique qui augmente, un secteur agroalimentaire qui augmente. Donc, d'une certaine façon, on est toujours dans l'augmentation des besoins en eau. Donc, c'est vrai qu'il va falloir à un moment peut-être décider tous ensemble quel modèle de pays on veut, vers quoi on veut aller, sachant que la ressource en eau sera de plus en plus un facteur limitant.
Eva Doya, 12 millions de touristes en 2019 à Barcelone. Est-ce que c'est possible de continuer ainsi ?
Nous, on est fiers de notre attractivité touristique. On l'est fiers et ce qui nous inquiète surtout, c'est de faire que, pas seulement les touristes, mais surtout les citoyens en général, au niveau catalan, mais plus globalement, on soit plus conscient que la sécheresse, des situations de changement climatique vont s'aggraver partout. Donc, il faut sensibiliser, il faut accompagner et il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas dans des situations dans lesquelles l'eau n'est pas un bien précieux, parce que ce l'est.
Mais vous pensez pouvoir accueillir encore plus de touristes ou autant de touristes dans les années qui viennent? Ils consomment de l'eau, fatalement.
Et ils consomment de l'eau, mais il faut les accompagner pour qu'ils consomment de l'eau d'une manière raisonnable. Et c'est ce qu'on travaille avec des campagnes de sensibilisation, d'accompagnement des équipements touristiques, etc.
Donc pas de limitation des vols, pas moins d'arrivées, pas de limitation des hôtels, des chambres, etc. Ça, c'est pas
non, il faut accompagner le secteur. C'est un secteur qu'on est fiers d'accompagner dans toutes les mesures qu'on est en train d'implémenter maintenant.
Jérôme Latron, question pour vous d'Anaïs qui nous dit « J'ai l'impression que les sols se dégradent et retiennent moins l'eau et que c'est un phénomène qui se généralise. Y a-t-il des études sur ce phénomène ?» Ça me permet de vous interroger sur le rôle que joue la forêt au-dessus de Barcelone, qui est un rôle central selon vous.
Oui, alors en fait ce qui se passe c'est que les sols, alors je pense pas qu'ils ne se dégradent, simplement les sols sont de plus en plus secs, puisque avec cette augmentation de température associée à ce déficit pluviométrique, on a, comme disait un de mes collègues, une atmosphère qui est vraiment assoiffée. Donc on a une évaporation, une transpiration de la part de la forêt, par exemple, qui est de plus en plus importante. Et donc on a des sols qui sont de moins en moins humides, de plus en plus secs, si vous voulez. Et le fait que ces sols soient secs ne permet pas... la pluie qui arrive dans ces sols secs ne suffit pas à saturer ces sols, et donc il n'y a a posteriori pas d'alimentation des nappes phréatiques, et donc pas d'eau qui arrive dans la rivière. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes ces zones de montagne ou de pré-montagne qui sont au-dessus des grands barrages on souffert d'un abandon rural à partir des années 1950, ce qui a provoqué un changement total de paysage. Et effectivement, avant les années 1950, ces zones étaient cultivées. Ouais. Il y avait de la population qui habitait sur des terrasses de culture. Et donc, la forêt était très peu présente. Mais à partir des années 50, suite à l'abandon rural, la forêt s'est développée de manière, je dirais, presque anarchique, en fait, sur toutes ces terrasses de culture. Et on a aujourd'hui une forêt très dense, qui n'a pas été gérée, et qui consomme beaucoup d'eau. Donc, pour rester optimiste, en fait, un des leviers d'action qu'on a aussi pour essayer d'augmenter les ressources en eau qui arrivent dans nos barrages, c'est de mettre en place un grand plan de gestion forestière afin de... Alors, on ne parle pas de couper toute la forêt, mais simplement de gérer, d'avoir une forêt en meilleure santé et qui produise plus de ressources hydrologiques et, dans le même temps, qui soit moins sensible au risque d'incendie de forêt ou qui augmente la biodiversité.
Ça, c'est l'une des pistes. L'autre piste, vous en avez dit un mot, c'est Eva Doya, c'est la communication pour baisser la consommation. Je voudrais que les auditeurs d'Inter puissent entendre ce qu'entendent également les Catalans depuis plusieurs mois.
La Catalogne est en urgence sécheresse. Notre gouvernement va investir plus de 2,4 milliards d'euros pour augmenter la disponibilité de l'eau et garantir sa qualité. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'eau que nous utilisons chaque jour ne provient pas de la pluie. Elle est régénérée ou dessalée, mais cela ne suffit pas. L'eau ne tombe pas du ciel. Économisons-la, c'est urgent.
Eva Doya, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que chaque Catalan consomme moins d'eau aujourd'hui qu'il y a 2 ans ou 3 ans ?
Bah déjà, il y a les restrictions, donc forcément,
oui,
ils sont obligés, effectivement. Mais oui, je pense qu'il y a une forte prise de conscience des gens, des Catalans et des Catalanes qui réalisent que l'eau ne tombe pas du ciel et qu'il faut y travailler. C'est pour ça que le gouvernement est investi dans ce travail, et moi, particulièrement en France, pour essayer de changer des bonnes pratiques avec nos interlocuteurs français, notamment du sud de la France, pour justement anticiper des situations pareilles.
Jérôme Latron, un dernier mot. L'eau qui est issue des usines de dessalement, est-ce qu'elle a le même goût qu'une autre eau qu'on a l'habitude de consommer ?
Disons que je n'habite pas à Barcelone, donc je ne peux pas vous en parler précisément. Bon, je ne pense pas qu'il
n'y a pas une grande différence.
Ne vous inquiétez pas.
Evadoya, non, il n'y a pas de différence de goût particulier.
Ne vous inquiétez pas, les contrôles sont très importants.
Je n'ai pas parlé de qualité, je parlais de goût simplement. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans ce 13-14, 13h46 sur Inter.